Bien, bonsoir à tous. Nous allons démarrer donc cette conférence de Dominique Cardon dans le cadre du cycle Lire la science. Nous accueillons ce soir Dominique Cardon. Alors, quelques infos pour le présenter rapidement. Il n'y a pas grand chose à dire pour ceux qui, nombreux derrière leurs écrans ce soir, veulent le googler. Vous découvrirez donc qu'il a commis un ouvrage dont il va nous parler en partie ce soir, qui s'appelle Démocratie Internet, la démocratie Internet, promesses et limites, au seuil en 2010. En même temps, en 2010, grande année, puisque un autre ouvrage sur intitulé Médiactiviste aux presses de Sciences Po, la même année. Donc des travaux qui portent principalement sur la question de l'espace public et d'Internet. Vous trouverez également qu'il n'a pas écrit Le monde des teintures naturelles, contrairement à ce qu'une recherche Google de base peut laisser croire, puisque c'est son homonyme Dominique Cardon du CNRS qui a. Il ne va pas des teintures naturelles jusqu'à la démocratie Internet. Il est sociologue au laboratoire des usages d'Orange Labs. Il cherchera associé au centre d'études des mouvements sociaux de l'EHESS. Et les clients qui ont acheté ces ouvrages sur Amazon ont également acheté des ouvrages d'Antonio Casilli, de Pierre Merclé, de Patrice Flichy, de Jean-Pierre Eskenazi, de Nathalie Sonac, d'autres gens que nous avons eu l'occasion parfois de faire venir à l'ENSIB. Donc cette intervention ce soir s'articulera en deux temps. Un premier temps, je vais vous laisser la parole pour une présentation de l'ouvrage et d'autres petites choses dont nous avons parlé juste à l'instant. Et ensuite, nous aurons évidemment un temps riche et fourni de questions-réponses et de discussions avec la salle. C'est à vous.
Bien. Push, voilà. Donc bonsoir, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter. Alors, ce que je vais faire, c'est procéder en trois temps, mais en ouvrant simplement des boîtes. Comme ça, parce qu'effectivement, les ouvrages, ils datent de 2010. Celui sur les médias activistes a été réédité. Là, on l'a profondément refabriqué là avec Fabien Grandjean. Mais c'est donc de vous parler d'histoire de l'internet, de la démocratie internet, donc de cet ouvrage, et puis d'aller sur des sujets qui sont plus actuels. J'ai un peu le sentiment, moi, de radoter, de dire toujours la même chose. Alors je sais que de présenter aussi des choses plus contemporaines, notamment parce qu'il me semble qu'elles sont en plein dans vos préoccupations, puisque moi je travaille sur les algorithmes du web et notamment sur les métriques de classement du web, et donc je voudrais vous présenter un petit bout d'une recherche actuelle sur le PageRank de Google et les métriques d'affinité de Facebook. Alors vous verrez, je vais pas faire compliqué, hein, mais c'est juste justement dans la même perspective que celle que je vais introduire sur la question de l'espace public, d'essayer de poser des questions qui, je l'espère, feront débat pour la suite. Alors peut-être et assez rapidement, alors même si je peux être très bavard sur cette question, revenir sur un point historique sur l'histoire de l'internet, alors que vous connaissez sans doute, mais pas forcément complètement, et qui fait l'objet actuellement en fait de débats historiographiques très importants aux États-Unis, donc du coup d'une production. D'ouvrages assez important. Et le point qui me semble important quand on cherche à aborder l'argument que je vais développer sur la démocratie Internet, c'est de revenir à l'histoire du réseau et pas à l'histoire du web, qui commence en 1990 au CERN avec Tim Berners-Lee et Robert Caillot, mais celle de l'Internet qui commence à la fin des années 60 dans les États-Unis de la contre-culture et des militaires. Alors vous avez sans doute beaucoup retenu les militaires, mais vous avez moins retenu la contre-culture. Donc je pense que si on m'a demandé de refaire un point d'histoire, c'est pour remettre le point contre-culture dans cette affaire. Et parce que ça me semble décisif quand on veut faire comme je l'ai essayé de le faire dans le petit ouvrage sur la démocratie Internet, une sorte d'exercice très critiquable pour un sociologue qui est de dire qu'une forme technique, une invention technique aurait un esprit politique. Hein, il est évident qu'aucune technique n'a de politique, que les techniques ne font rien que ce que nous voulons leur faire faire. Mais il y a quand même incorporé dans la naissance d'Internet, dans ses premiers usages, dans les premières communautés qui s'en sont emparées, il y a des pratiques, des visions, des représentations, des idéologies qui ont quand même donné à l'Internet une forme très particulière et qui résiste au temps. Hein. Alors elle s'affadit sans doute, mais elle résiste au temps. Moi j'avais retrouvé une phrase de GB que j'aime beaucoup qui était de dire l'utopie ça réduit à la cuisson, c'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup au départ, hein. Et les gens d'Internet ont mis énormément d'utopie dans le réseau au départ, avec trois éléments qui sont importants. Je vais insister que sur le dernier. Le premier, c'est que contre les télécoms, ce que les militaires vont financer avec l'ARPA dans les années 60 avec Joseph Licklider, c'est l'idée d'un réseau qui soit exactement l'inverse de celui des télécoms. Le réseau des télécoms était un réseau intelligent au centre et idiot à la périphérie. Quand je dis idiot à la périphérie, c'est que le terminal téléphonique n'a toujours pas beaucoup plus, enfin le fixe, d'intelligence. En revanche, la supervision de trafic est hyper sophistiquée, ça c'est le réseau des télécoms. Le réseau que va dessiner Paul Baran dans le fameux Mémorandum, qui est une des figurations parmi d'autres d'une histoire tumultueuse sur la genèse de l'Internet, c'est de faire un réseau qui soit idiot au centre, et TCP/IP est une norme idiote, et intelligent à la périphérie. Et quand le réseau est intelligent à la périphérie, ça veut dire qu'il redonne du pouvoir à l'utilisateur, et que le pouvoir redonné à l'utilisateur va être à l'origine d'une capacité d'innovation qui est distribuée à la périphérie du réseau. Et la périphérie du réseau, à partir des années 70, du milieu des années 70, ça va être des micro-ordinateurs personnel, je vais y revenir, et des logiciels, et donc redonner la possibilité aux gens, depuis leur propre ordinateur, de faire du code, d'inventer des services, de proposer des innovations qui vont ensuite, de temps en temps, une sur 10 000, mais de temps en temps, avoir un effet de diffusion virale dans le réseau absolument structurant. Et donc, quand on regarde l'histoire de l'Internet, on a ce paradoxe étrange, hein, c'est que la plupart des choses qu'on utilise tous les jours, des services innovants du réseau, ne sont jamais venus des centres de recherche universitaires ou des centres de recherche industriels. Le Wi-Fi a été cherché par les communautés de l'Internet. C'est des étudiants, Sergey Brin et Larry Page, qui font Google. C'est des étudiants, David Filo et Jerry Yang, qui font Yahoo. C'est des étudiants, Mark Zuckerberg, qui fait Facebook. C'est un propriétaire de sites érotiques, Jimmy Wells, qui fait Wikipédia, etc., etc. Les grandes innovations sont venues par des lead users, dit Eric Van Hippel, qui vont imaginer quelque chose qui va avoir une diffusion virale dans le réseau et avoir un effet très fort et très structurant dans le réseau. Ça, c'était rendu possible par l'infrastructure technique du réseau et par ce déplacement de l'intelligence du centre vers les périphéries. La deuxième dimension qui est essentielle, mais là, elle a été beaucoup travaillée, puis je pense que vous la connaissez bien, c'est l'idée que Internet, né dans une communauté universitaire de pairs, a installé des systèmes de collaboration dès le départ très forts, dont le logiciel libre va être l'incarnation. Et c'est l'idée d'une communauté, d'une république, dit Patrice Flichy, des pairs, qui va être au cœur des formes de coopération bénévole et auto-organisée de la fabrication des normes de l'Internet dans les années 60 et 70. Et puis le dernier élément, et c'est sans doute celui-là que je voudrais développer un tout petit peu plus, c'est que les premiers utilisateurs d'Internet sont des communautés hippies. Et c'est un point très intrigant, qui a été souvent relevé, qui est de plus en plus relevé, qui fait l'objet de débats. Patrice Flichy s'y était intéressé dans son ouvrage sur... j'oublie, l'utopie internet, non, c'est l'imaginaire d'internet. Il y a un livre magnifique qui a été traduit en français qui s'appelle À l'origine de la révolution numérique, je crois, de Fred Turner, qui en raconte toute la saga, l'incroyable saga. Et beaucoup se demandent comment il était possible qu'une invention tienne ensemble, d'une certaine manière, hein, un pied du côté de l'armée et des militaires qui financent, et de l'autre côté des usagers qui sont complètement inscrits dans la contre-culture hippie des années 60 et 70. Et parmi ces différentes formes d'innovation qui vont apparaître dans la contre-culture américaine, on a l'histoire de l'ordinateur personnel qui apparaît dans les années 70. Alors vous connaissez sans doute les portraits d'époque de Bill Gates, Steve Jobs et des Homebrew Computer Club qui vont fabriquer l'ordinateur personnel au milieu des années 70. Vous savez que Steve Jobs revenait de 9 mois d'Inde, hein, et en racontant partout que le LSD avait été la meilleure, et il l'a toujours dit toute sa vie, était la meilleure expérience de sa vie, et que si Bill Gates avait fait avait pris plus de LSD, il aurait fait de meilleurs produits. Il s'est joué quelque chose d'étrange autour de Menlo Park, la ville qui entoure Stanford, de 68 à 79, dans l'invention de la micro-informatique, de la connexion entre les ordinateurs et de l'apparition des premiers usagers qui ne soient pas des techniciens et des ingénieurs ou des chercheurs de l'Internet. Alors, pour dire vite, un argument qui serait très long à développer et qui est très bien développé dans le livre par Fred Turner, hein, c'est de dire que la contre-culture américaine, qui a été très vivace à San Francisco, qui s'est même, été 67, Atashbury, la musique, la drogue, les contre-cultures sont apparues. Et dans ces contre-cultures, il y avait en fait, on pourrait le dire, c'est un peu caricatural, mais il y avait deux formes politiques qui étaient présentes. Une forme politique qui était dans l'idée qu'il fallait lutter contre les pouvoirs, les représentations, lutter contre Nixon, terminer la guerre, arrêter la guerre au Vietnam, et dans l'idée de faire de la politique avec des formats classiques de la critique sociale et politique portée par la jeunesse étudiante, qui était la manifestation, la grève, la prise du pouvoir, l'élection, ces formes assez classiques de la politique. Et ce que montre très bien Fred Turner, c'est que cette jeunesse-là, révoltée, était absolument hostile aux technologies. Les technologies, pour elle, étaient le symbole même de la technoscience, de la bombe atomique, des immenses calculateurs des entreprises d'IBM et d'autres grandes entreprises, et il y avait une radicalité dans l'hostilité aux technologies. Mais dans la contre-culture américaine, il y avait une deuxième tendance, accrochée à la première, mais en affinité avec elle, qu'on peut appeler hippie, pour aller vite, hein, Fred Turner l'appelle communaliste, dans lequel le cœur du message était de dire c'est pas la peine de prendre le pouvoir si on ne sait pas d'abord changer soi-même. Avant de changer les structures de représentation, de prendre le pouvoir à Washington, il faut transformer localement, individuellement, il faut transformer les formes de vie. Et on reconnaît le slogan classique, d'ailleurs, qui court toujours dans les formes du mouvement social aujourd'hui, qui est de changer la société sans prendre le pouvoir. Et dans changer les sociétés sans prendre le pouvoir, il y avait cette idée qu'il fallait faire communauté, qu'il fallait d'abord concevoir la politique comme une transformation de sa propre vie, de sa propre existence, de l'instauration de rapports émancipés avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, avec sa communauté, et de réorganiser les formes de vie depuis l'expérience individuelle des sujets. Donc il y a un lien très très fort qui se noue entre cette représentation de la contre-culture et l'individualisme qui va aussi se déployer à partir des années 70 dans les sociétés libérales avancées. Et de façon frappante, et c'est là que les historiens de l'Internet sont toujours fascinés, ces gens vont partir en communauté. Il y a entre 500 et 800 000 jeunes américains qui vont vivre en communauté après l'été 67, le fameux été 67, de 67 à 73. Et à la différence de la première tendance de la contre-culture que j'évoquais tout à l'heure, ces gens ne sont pas hostiles aux technologies. Ces gens vont considérer que, d'abord, ils sont pas hostiles à une des technologies qui est importante pour eux, je l'ai mentionné tout à l'heure pour l'anecdote, mais qui, c'est pas qu'une anecdote, qui est le LSD, la chimie du LSD, la transformation de la conscience par le LSD. Et il y a cette idée qui est proche, c'est de se dire la micro-informatique, quand elle appartient à la technoscience, elle nous rationalise, elle nous domine, elle nous aliène, elle nous dépossède, mais on peut se servir de la technologie pour redonner du pouvoir à l'individu, pour augmenter son champ de conscience, pour transformer, aider l'individu à engager un rapport émancipé avec le monde. D'où l'idée du bricolage, du do-it-yourself, de cette idée de reprendre la force de la technologie pour soi et de refabriquer des outils qui peuvent donner aux individus une conscience élargie de leur rapport au monde. Alors c'est exactement cette conception qui va être celle de Doug Engelbart, qui est le fondateur du Stanford Research Institute, qui est le laboratoire central de Menlo Park, qui va être au cœur de la première connexion Internet, qui va être l'inventeur de la souris, du travail, du temps partagé, du travail partagé, de l'interface graphique et de beaucoup d'innovations qui vont être au cœur de la révolution de la micro-informatique connectée. Hein. Et le message de Doug Engelbart, le nom de son laboratoire était augmentation de l'esprit. L'informatique doit être une augmentation de l'esprit. Et c'est Doug Engelbart et les chercheurs du SRI qui, avec beaucoup d'autres, les communautés hippies qui sont présentes dans la baie, vont participer au Homebrew Computer Club, qui est l'endroit où Bill Gates, Steve Jobs, Wozniak, etc. sont en train de faire cet ordinateur pour l'individu, cet ordinateur personnel, cet ordinateur auquel personne ne croyait à l'époque. Hein. L'idée était que l'ordinateur était un outil collectif où on avait du temps de calcul partagé. Et donc c'est noué là quelque chose de très central entre une forme politique et une forme d'appropriation de la technologie dont le signal repéré par tous et tout le monde est la première présence visible, imprimée, de la micro-informatique naissance dans le Wooler's catalogue que vous voyez ici, qui est le catalogue de la communauté des communautés hippies qui se diffusait à partir de 70 aux États-Unis et qui était piloté par Stewart Brand, qui est un de ces personnages étranges au croisement des cultures de la contre-culture et des nouvelles cultures techniques qui se mettaient en forme à l'époque. Alors l'argument fort de Fred Turner, c'est de dire que les communautés réelles vont échouer, et vont échouer amèrement, gravement, dans une sorte d'amertume, hein, à partir de 72-73. Les rapports sociaux ne sont pas émancipés, les inégalités de sexe réapparaissent, les inégalités de conditions sociales sont toujours présentes même au sein des communautés, certaines communautés deviennent même des sectes, les formes charismatiques réapparaissent, les communautés se disloquent, elles quittent les forêts pour retourner dans les villes, et de façon très étrange, ce sont ces mêmes communautés que 7 ans plus tard, on va voir réapparaître comme étant la première communauté en ligne qui ne soit pas Usenet, c'est-à-dire une communauté de gens qui fabriquent l'Internet, qui s'appelle The Well, et qui va être le lieu dans lequel vont se retrouver toute une série de gens qui vont participer et qui vont être au cœur de la fondation de l'esprit de la Silicon Valley. Certains sont toujours vivants, ils ont fondé Wired, la revue qui donne le ton de l'idéologie de la Silicon Valley aujourd'hui, et ils vont être les promoteurs politiques de toute, on pourrait dire, l'idéologie de l'internet naissant. Or, ces gens sortaient tout simplement des communautés, hein, et en reportaient leur activité sur un autre endroit pour faire communauté, qui n'était pas le monde réel puisque l'expérience avait été malheureuse, mais qui était les ordinateurs connectés à travers The Well, qui reste historiquement, hein, la forme première de la communauté dite virtuelle. Le terme communauté virtuelle est fondé par Howard Rheingold, toujours vivant, toujours actif, une sorte d'essayiste prolixe, qui a fait toute cette histoire avec toute une série de personnes. Et alors j'étais un peu brouillon là dans mon récit, mais ce que je voudrais essayer d'en tirer, c'est quel est le type d'idéologie qui est né dans ce contexte très particulier de l'Internet, des pionniers. C'est d'abord l'idée que la technologie va aider l'individu à vivre autrement. Hein. Et on passe d'abord par l'individu. La deuxième idée, c'est qu'on le fait localement. Et qu'on le fait avec des gens qu'on a choisis pour vivre en communauté. Que les formes de la communauté sont ensuite auto-organisées, et la question de l'auto-organisation va être très présente, donc on reconnaît là un message très libertaire. Et la dernière dimension, tout aussi libertaire, est l'idée qu'on n'a pas besoin de passer par l'État et par les systèmes de représentation classiques. Il y a même une méfiance, on pourrait dire, originelle, à l'idée des pouvoirs publics et de l'État. D'une certaine manière, le discours qui va venir signer l'esprit des pionniers, qui est toujours mentionné par les pionniers, les anciens de l'Internet, est une déclaration de John Perry Barlow. John Perry Barlow, parolier des Grateful Dead, qui a participé à toute cette histoire, qui a fait toute cette circulation, qui est aujourd'hui très actif à la tête de l'Electronic Frontier Foundation, qui est l'association américaine des libertés publiques, qui est en tête des luttes contre ACTA et l'affaire Snowden aujourd'hui. John Perry Barlow, 1996, à Davos, devant les chefs d'État et chefs d'entreprise, déclaration d'indépendance du cyberespace. Ce territoire, il nous appartient. Nous l'avons créé, nous en définissons nous-mêmes les règles, ne nous régulez pas, hein, il nous appartient. Et donc cette idée que l'Internet est né des communautés auto-organisées qui ont défini elles-mêmes dans des nouveaux standards techniques qui étaient offerts par les constructions faites par les universitaires et les militaires des nouvelles manières de s'auto-organiser, a défini un esprit libertaire originel de l'Internet. Et ce que montre, mais je fais tout ça pour vous inviter à lire le livre de Fred Turner dont j'ai très mal rendu compte, ce que montre Fred Turner, c'est qu'il y a un deuxième moment, hein, qui va naître dans les années 80, qui est un tournant libéral d'une partie, pas tous, hein, de loin, mais d'une partie de cette génération initiale des fondateurs, des pionniers, des gourous de l'Internet, qui vont accepter les lois de dérégulation néolibérales de Ronald Reagan, qui vont même les encourager, hein, et qui vont associer très fortement leurs idéaux d'auto-organisation avec l'idée que le marché est le système autorégulé par excellence et qui va favoriser le développement du capitalisme digital de la Silicon Valley. Donc on a une sorte de continuité, hein, entre une génération qui a défini l'Internet contre l'État comme le lieu dans lequel des individus qui veulent augmenter leur capacité et leur esprit à travers le réseau s'auto-organisent, va se mettre en place. Et je crois que c'est cet esprit-là, hein, même si évidemment il s'est considérablement transformé, la citation de GB de tout à l'heure, il continue à perdurer dans tous les débats sur la propriété intellectuelle, sur la neutralité du net, sur la régulation, sur la liberté d'expression sur Internet. On en sent toujours pointer les différents éléments de justification. Voilà pourquoi je faisais cet argument initial sur lequel j'ai été très long. Alors je vais essayer d'être plus bref sur le suivant, mais il me permet de dire quel est l'argument central de l'ouvrage sur la démocratie Internet. C'est d'essayer de dire que ce qui me semble-t-il est le plus original dans la forme qu'amène Internet dans nos démocraties, c'est pas tellement de transformer la démocratie représentative, celle de la première critique évoquée dans la contre-culture, celle qui désigne des représentants à travers l'élection, ou celle qui permettrait, grâce aux nouveaux outils numériques, aux représentants ou aux candidats de mieux mobiliser leurs électeurs à travers des outils numériques. Après tout, le numérique pour les hommes politiques classiques n'est qu'un nouveau support de communication dans le portefeuille élargi des outils de communication qui sont à leur disposition. Ça fait des choses nouveaux d'avoir des hommes politiques sur Twitter quand c'est pas leur chargé de communication qui fait rédige leur tweet, mais ça ne transforme pas grand chose de la forme de la démocratie représentative. Mais qu'en revanche, si on a une conception élargie de ce qu'est la démocratie, une conception qui renverrait à celle que peuvent avoir, aussi différents soient-ils, Pierre-Rosan Vallon ou Jacques Rancière, il y a un autre endroit où des formes de vie nouvelles peuvent prendre forme grâce à l'Internet. Et alors moi, je l'appelle l'espace public, hein, c'est-à-dire quelque chose où la société civile, quelque chose qui est entre le marché et l'État, qui est la capacité donnée aux individus de s'auto-organiser de façon originale et nouvelle. Et là, me semble-t-il, les transformations qu'amène l'Internet sont beaucoup plus vives que dans la première situation que j'évoquais tout à l'heure. Mais il faut pour ça avoir une conception élargie de l'espace public et de la société civile. Alors je voudrais vous présenter rapidement un modèle qui est dans le livre sur lequel je vais aller vite, qui est d'essayer de voir en quoi Internet transforme nos espaces publics, avec un modèle qui est très simple, hein, qui est de dire qu'un espace public, c'est un espace où on prend la parole en public. Donc il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre et devant un public, et que dans ce modèle-ci, on a une première transformation qui est tellement évidente que j'ai pas besoin de m'y étendre, qui est que celui qui pouvait parler dans l'espace public était, dans la situation traditionnelle, des médias traditionnels, un professionnel de l'espace public, journaliste, éditeur, on pourrait dire documentaliste, bibliothécaire, hein. Et puis avec Internet, n'importe qui, potentiellement, je vais insister là-dessus tout à l'heure, potentiellement peut prendre la parole en public, un amateur prendre la parole en public. Puis sur la deuxième dimension, de qui parle-t-on dans l'espace public, hein, ce parle-t-on pouvant être une personne, une institution, une chose. Moi, je pense qu'il est utile de distinguer des situations dans lesquelles on parle de personnalité, homme politique, chef d'entreprise, un ensemble d'acteurs qui, du fait de leur fonction, appellent le jugement du public, et puis aussi des quidam, vous, moi, n'importe qui tout d'un coup, à la faveur d'une situation particulière, est propulsé à la une des journaux et de l'espace public. Alors de ce petit schéma, moi je tire quatre manières de parler en public, et c'est ce point-là que je voudrais insister. La première est hyper classique, elle ne mérite pas d'attention particulière. Des professionnels parlent de personnalité. On peut dire que c'est, comme le dit Jürgen Habermas, c'est le grand philosophe de l'espace public. Hein. Pour un chercheur qui travaille sur l'espace public, il est obligé de passer par Jürgen Habermas, espace public, 1962, Payot. Ce que Jürgen Habermas appelle la sphère publique restreinte, qui apparaît dans les sociétés démocratiques à la fin du XVIIIe siècle, et qui est la naissance d'un espace dans lequel, on va dire, des journalistes, ils ne sont pas encore très professionnels, sont d'une certaine manière les délégués des citoyens et du public pour raconter, décrire, critiquer, commenter, faire connaître les propos des représentants de la sphère publique. Et puis il y a une situation qui est, on pourrait dire, au XIXe siècle, si on veut être très caricatural, une deuxième forme de parole qui va être massive et bouleverser nos espaces publics, et c'est la deuxième partie du livre d'Habermas, qui est l'apparition au XIXe siècle, et notamment, j'insiste là-dessus, parce que c'est une technologie, là aussi, qui a joué un rôle majeur, qui est la photographie, et la photographie de presse, fait que tout d'un coup, les journalistes profitant du mouvement de massification de la presse qui a lieu tout au long du XIXe siècle, mais qui se renforce à la fin du XIXe siècle avec la presse à un penny, la presse à un sou, et du coup la transformation éditoriale des projets du journalisme, notamment vers le fait divers, la vie quotidienne du public, fait que des professionnels vont se mettre à raconter en public la vie de simples quidam, vous, moi, n'importe qui, et le fait divers est évidemment la voie d'entrée dans cet espace. Je rappelle, hein, qu'aux États-Unis, ce qui va être le premier fondement normatif de la question de la vie privée, est posée en 1890 par Warren et Brandeis dans un texte célèbre à propos d'une affaire de faits divers, de personnes prises dans un fait divers qui s'est retrouvée à la une de la presse. Et c'est dans cette situation que les juges Warren et Brandeis vont poser le droit à la tranquillité, to be let alone, qui est le premier fondement du droit à la vie privée. Alors ces deux situations, elles sont très standards. Elles définissaient notre espace public de, on pourrait dire, des médias traditionnels, des médias dits de broadcast, pour le livre, broadcast, c'est pas très adapté, mais enfin voilà, le livre, la radio et la télévision, et elles ont une composante essentielle, je vais vite parce que je crois que c'est tellement évident, mais qui est quand même très centrale. Je pense qu'il faut jamais oublier ce point à la fois trivial et complètement central, c'est qu'il y a un filtre. Les sociologues américains du journalisme disent un gatekeeper, un gardien, un portier, l'expression est parfaite, entre le public et la sphère publique, l'espace public, il y a une profession, les gatekeepers, éditeurs, journalistes, bibliothécaires, documentalistes, qui sont chargés de faire la séparation entre ce qui est privé et ce qui est public, entre ce qui mérite la diffusion et ce qui ne mérite pas la diffusion, entre ce qui doit être donné à voir et ce qui ne doit pas être donné à voir. Et cette fonction est essentielle parce qu'elle joue sur un paramètre temporel qui me semble essentiel, c'est qu'on filtre puis on publie. Et j'insiste sur ce point parce que dans l'espace public de l'Internet, on va inverser cette maxime. Et puis il y a une deuxième dimension plus abstraite, mais je voudrais m'y arrêter une seconde, qui est que, en fait, ce que dans l'espace public traditionnel, donc celui des gatekeepers, dans leur travail, journalistes, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, procédaient à une opération étrange, enfin non pas étrange, mais qui n'apparaissait pas comme problématique, parce que se superposaient très facilement dans leur travail deux définitions de l'espace public qui étaient très différentes. La première définition de l'espace public, c'est de dire l'espace public, c'est ce qui est accessible au regard de tous. C'est donc de définir l'espace public par la visibilité mutuelle et partagée. Alors, vous savez que les juristes adorent cette définition. Vous pouvez faire la même chose chez vous ou dans la rue, même si personne ne vous regarde dans la rue, ce que vous faites dans la rue n'aura pas le même sens parce qu'il est potentiellement accessible au regard de tous. Alors, la question de la visibilité partagée est constitutive de la définition du caractère public d'un espace et du coup des comportements et des gestes qui auront lieu dans cet espace. Et donc on définit la question de l'espace public par le fait qu'il est visible de tous, par l'accessibilité au regard. Et puis la deuxième manière de définir l'espace public, qui n'a rien à voir, qui nous vient de la tradition philosophique, qu'Habermas a amené à la suite de Kant, hein, du fameux essai sur les Lumières de Kant, c'est de considérer qu'il y a des informations, il y a des choses qui nous concernent tous en tant que nous sommes citoyens, membres d'un corps politique, ceux des citoyens, d'une nation ou d'un espace commun. Et du coup, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, c'est cette définition par la publicité, mais au Öffentlichkeit, au sens kantien du terme, qui mérite que certaines informations soient à la une des journaux ou bien soient reléguées en toute petite colonne dans la dernière page du journal. C'est cet arbitrage entre ce qui nous concerne et ce qui nous concerne moins qui est l'objet du travail des gatekeepers. Alors moi, ce que je crois, c'est que dans l'espace public traditionnel, journalistes, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, procédaient dans leur travail à une superposition de ces deux définitions. Ils considéraient que cette information était importante et que du coup elle devait être visible par tous. Donc les deux éléments de la définition de l'espace public se superposaient l'une sur l'autre à travers le travail responsable de filtrer puis publier. Ça doit nous concerner, donc je le rends visible dans cet espace. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'il me semble que c'est ce qui se modifie avec Internet. C'est que sur Internet, des choses peuvent être visibles, mais ne pas être importantes. Et que tant qu'on n'aura pas compris ce point, on continuera à faire une erreur, on pourrait dire presque de parallaxe, c'est-à-dire de regarder Internet avec les catégories de jugement que nous nous sommes formés dans l'espace public traditionnel. Sur Internet, on accède à des informations qui n'ont aucun intérêt, qui ne nous intéressent pas. L'accessibilité mutuelle ou la visibilité mutuelle des informations ne préjuge en rien de leur importance ou de leur qualité en tant que nous sommes des citoyens. Et ce découplage-là qui est au cœur du nouvel espace public qui s'est créé, alors j'ai des métaphores qui sont un peu poussives pour dire que ce que vont faire les deux nouveaux régimes de prise de parole sur Internet, c'est d'élargir l'espace public traditionnel, des médias traditionnels, et l'élargir dans deux dimensions différentes. Alors c'est peut-être la seule chose un tout petit peu originale que je cherche à dire, parce que le reste est très banal, c'est que ça pousse les murs au sens où ça augmente le nombre de gens qui peuvent prendre la parole en public. Ça augmente le nombre de locuteurs. Et c'est une des dimensions essentielles, on pourrait dire morphologiques, de la transformation de l'espace public, c'est que n'importe qui peut aujourd'hui parler en public sans demander à personne. Hein, et c'est une, je crois, une transformation dans nos démocraties assez importante et assez essentielle et qui rejoint bien l'esprit des pionniers que j'évoquais tout à l'heure. mais que cette transformation morphologique s'accompagne aussi d'une transformation de la manière de parler en public. Et donc on enlève le plancher dans la métaphore utilisée, au sens où on transforme les formes de l'expression en public, qui étaient, il faut le dire, hautement sélectives socialement dans l'espace public traditionnel. Alors j'insiste sur la première, donc des amateurs peuvent désormais parler des personnalités. On a un système qui, et on a appelé ça le web participatif, on peut dire que la blogosphère des années 80, de la fin des années, où le blog naît en 99, hein, on peut dire c'est vraiment le début des années 2000, hein, c'était le moment de grande inquiétude d'ailleurs. N'importe qui peut parler en public des personnalités, ils vont diffamer, injurier, outrager, on va passer son temps devant les tribunaux, parce que il n'y a plus de filtre des gatekeepers pour protéger les personnalités du discours sauvage des individus. Bon, on voit que ça c'est qui était vraiment une inquiétude forte, hein, dans les années 2000, c'était assez récurrent. On voit que ça, il y a devant les tribunaux, à part Nadine Morano, je crois en France, il y a très peu d'hommes politiques qui ont fait des procès à des blogueurs pour outrage, injure ou diffamation, même s'il y aurait de quoi, hein, objectivement, il suffit de chercher, hein, on trouverait facilement. Et il y a une forme de régulation qui s'est mise en place, et une régulation qui s'est mise en place sur un point compliqué. Alors c'est celui que j'aborderai peut-être, mais je crois que j'aurai à peine le temps tout à l'heure. Non, j'aurai pas le temps. À propos du PageRank, qui est que quand on a découplé la visibilité mutuelle, première définition de l'espace public, et le caractère important de l'espace public, on a procédé à une opération qui est compliqué, c'est que on n'est plus dans le processus je filtre puis je publie, mais dans un processus qui est je publie puis je filtre. Et je crois, alors c'est le moment un peu naïf où sans doute mon optimisme transperce, mais en même temps je crois que c'est central, en fait, si on veut comprendre l'internet, et on le doit aux pionniers, c'est d'où l'importance de l'élément historique, c'est que on oublie toujours que la formule « filtrer puis publier » a été inversée dans ces deux termes. Beaucoup considèrent, si on regarde avec les catégories de l'espace public traditionnel, beaucoup considèrent que si on enlève les gatekeepers de l'espace public, tout le monde peut publier, donc tout le monde peut dire n'importe quoi, donc Internet est une poubelle. Alain Finkielkraut est réintervenu récemment pour nous le redire. Et il n'a pas tort. Hein, c'est-à-dire que Internet est une poubelle. Si on regarde avec ses catégories à lui, on y trouve des choses formidables, plus expertes, plus documentées, plus poétiques, plus intelligentes, etc., que dans l'espace public traditionnel, ça je crois. Mais on y trouve aussi beaucoup de choses plus débiles, plus idiotes, plus conspirationnistes, plus antisémites, plus ridicules. Et surtout beaucoup de choses qui ne nous concernent pas. Hein, c'est-à-dire que bon, c'est accessible, mais ça ne nous concerne pas. Hein, ça ne nous concerne pas au sens où ça nous concernait dans l'espace public traditionnel qui avait été filtré par les gatekeepers. Et alors là, je crois qu'il faut faire un point de sociologie ou de physique de l'Internet presque. Hein, c'est qu'un réseau n'est pas plat. Un réseau, il n'y a rien de moins plat qu'un réseau, et que sur Internet, c'est pas parce qu'une information est accessible qu'elle est vue. Et même si, moi je travaille beaucoup avec des gens qui font des mathématiques là sur ces questions. Bon, la visibilité sur Internet est répartie selon une loi de puissance qui est d'une violence absolument sauvage. Hein. Et donc on peut pas le mesurer. Donc moi je colporte un chiffre que m'a donné Guillaume Fouettillou, mais qui est parlant au moins, même si dans la réalité on ne sait pas le mesurer. 90% de nos navigations sur Internet sur 0,0006% des contenus. Donc en fait, nous naviguons sur un tout petit bout de l'Internet, et puis ensuite c'est une incroyable loi de puissance, une loi de puissance, c'est une loi des courbes comme ça, dans laquelle il y a quelques sites qui sont de temps en temps un peu vus, hein, et puis le reste c'est des sites morts. C'est des sites jamais vus, c'est des sites, même ceux qui les ont faits ont oublié le mot de passe, ils savent même plus sur quel serveur c'est, ils savent pas le retrouver, etc. C'est ça l'Internet, massivement. Alors c'est sûr que si vous mettez tous les mots-clés pour chercher une thèse conspirationniste, vous allez la trouver, parce que sur un de ces sites, il y a quelqu'un qui un jour a écrit la thèse conspirationniste. Obama a été enlevé par les extraterrestres, qui l'ont emmené sur Krypton, qui l'a fait revenir, etc. Vous tapez Krypton, Obama, extraterrestre, vous le trouvez. Hein. Donc on peut très bien ramener dans l'espace de visibilité publique des thèses délirantes dont on dira qu'on les a trouvées sur Internet, et que comme Internet est un espace public, c'est un espace qui est une poubelle. Mais dans la réalité des usages, c'est que ces sites sont jamais vus. Hein, sont jamais vus, sauf par ceux qui les cherchent. Hein, c'est, je crois, le point très central. Alors, quels sont ceux qui sont vus, du coup? Hein, pourquoi il y a au sommet de la hiérarchie de l'Internet, des navigations qui, d'une certaine manière, sont complètement concentrées, focalisées, alors moins que dans les quelques chaînes de radio et de télévision, mais se focalisent sur des zones très précises et à haute visibilité de l'Internet à cause des algorithmes. À cause, et notamment à cause de beaucoup de métriques du web, si j'ai le temps j'en dirai un mot tout à l'heure, mais à cause principalement d'un algorithme central qui est le PageRank de Google. Et le PageRank de Google, je préface ce que je voulais vous dire tout à l'heure, il fonctionne selon un principe qui est typique de l'esprit des pionniers, hein, qui c'est-à-dire qu'il est parfaitement méritocratique, il n'est pas du tout démocratique, il est méritocratique. Il est de considérer qu'une information mérite d'être jugée importante et donc visible sur Internet, parce que beaucoup d'autres internautes publiants considèrent qu'elle le mérite et lui ont adressé un lien. Que ce lien soit pour dire que cette information est bonne ou pas bonne, que ce qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de mesurer le niveau de reconnaissance et de citation qu'a acquis un site du web à l'intérieur de l'espace du web. Et donc, la promesse du PageRank, hein, je le dis de façon très naïve, comme ça j'espère que ça provoquera du débat, et qui est typique de l'esprit des pionniers et des communautés, c'est de considérer que le filtre, c'est plus des gatekeepers, journalistes, professionnels, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes. Le nouveau gatekeeper, c'est l'ensemble des internautes publiants. C'est une responsabilité collective et partagée par tous ceux qui font des liens, des likes, des retweets sur Internet. Chaque geste fait par des individus isolés sur Internet produit à l'égard des métriques et des algorithmes qui calculent le web fait monter l'information d'une petite marche dans la grande échelle de la visibilité de l'Internet. Et ça, les pionniers ont donné un nom, alors qui a maintenant beaucoup de fondements mathématiques, hein, dans lequel je n'entre pas ici. C'est celui d'intelligence collective ou de sagesse des foules, c'est-à-dire le gatekeeper de l'Internet, ce sont les internautes publiant ou cliquant, ou surtout faisant des likes et des retweets. Mais c'est principalement l'internaute qui fait du lien hypertexte, qui produit cette visibilité. Et puis, dernier élément de la transformation de l'espace public sur Internet, et qui est sociologique, celui qui intéresse le plus le sociologue, évidemment, c'est de considérer qu'il y a un quatrième régime de parole qui est apparu, lui, plutôt en 2005-2006, hein, dans les usages. Là, Facebook fait grand cas pour essayer de fêter les 10 ans. C'est pas vraiment les 10 ans. Hein. C'est pour les usagers, c'est pas les 10 ans. Avec les réseaux sociaux, qui est une situation de parole dans laquelle des quidam parlent à des amateurs, autant dire des quidam à des quidam, et qui est une transformation assez radicale de l'espace public tel qu'il était mis en place dans l'Internet des blogueurs. Hein, l'Internet des blogueurs, toutes les enquêtes l'ont montré abondamment. C'était sociologiquement une population nouvelle sur Internet, mais pas si nouvelle que ça. Hein. Et toutes les professions, les trajectoires professionnelles, etc., montraient que ceux qui écrivent des blogs sont à proximité des métiers de l'espace public traditionnel, de la veille, du journalisme, de l'édition, des métiers de la culture, etc., etc. Et donc on avait une transformation sociologique qui n'était pas si originale que ça par rapport à celle des professionnels de l'information. Ce qui arrive avec les réseaux sociaux, c'est qu'on démocratise, thèse optimiste, ou on massifie, thèse pessimiste, les écrivains de l'Internet, et on les massifie en transformant la manière de parler publiquement, en rendant public des formats qui sont des formats principalement conversationnels. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur Facebook et j'insiste beaucoup sur ce point, c'est que ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, que j'appelle en clair-obscur, donc type Facebook, c'est principalement de la conversation. Ça ne nous vient pas de la tradition des médias, ça nous vient de la tradition de la communication interpersonnelle. Hein. Ça nous vient de la communication à deux, à un peu plus que deux, et tous les outils qui se sont greffés pour transformer l'Internet viennent en fait de la messagerie. De la messagerie, on met des gens en copie, ou on met des gens en copie cachée, ou on discute sur MSN en invitant des gens à discuter un peu plus, et on se met à faire des statuts sur Facebook en choisissant son public. Donc on ne cesse d'élargir en fait l'espace des gens devant lequel on s'exprime, mais sous une forme conversationnel jusqu'à parler à un très très grand public. Et ça, c'est, je crois, la transformation la plus originale, la plus intrigante aussi de l'espace public de l'Internet, notamment parce que, à l'inverse de la première forme de prise de parole, on a des publics qui sont hétérogènes socialement, qui ont des âges d'abord très très variés. Les jeunes ont amené la pratique, mais maintenant elle s'est largement répandue et diffusée, et surtout des jeunes peu diplômés et de milieux populaires ont considérablement, et les filles ont considérablement, les filles qui dominent aujourd'hui dans les pratiques conversationnelles de tous les réseaux sociaux et de Facebook en particulier, ont investi ce nouvel espace d'expression publique. Alors, j'ai ma troisième partie, mais en même temps, je prends 10 minutes. Ce que je vais faire, alors, c'est de dire quelques mots sur le programme de recherche actuel là, sur lequel je travaille avec des collègues, etc., qui est de réfléchir à ce que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, qui est si les algorithmes et les métriques sont si centrales dans la définition de la visibilité sur le web, ça mérite une enquête sociologique approfondie. Et je le dis vraiment avec force, parce que j'ai fait glisser dans un sondage là, représentatif, très solide, etc., bien fait, des questions assez perverses en fait sur comment Google a classé les résultats. Comment fonctionne l'algorithme de... Alors, les questions étaient posées de façon simple. Pourquoi Amazon vous met livre recommandé? Comment il a pu calculer pour le faire? Voilà. Bon, les réponses sont sidérantes. C'est-à-dire qu'il y a un degré de méconnaissance, mais incroyable, sur le classement. Google, les gens pensent vraiment qu'on a bien enlevé la publicité, bien montré les pages blanches du classement dit naturel ou organique de Google. Les gens pensent vraiment que c'est le nombre de mots-clés, toujours. Ils en sont encore à Alta Vista. Ou bien pense que c'est les clics. Si on a beaucoup cliqué, ça fait remonter le site. Donc j'imagine que si on clique beaucoup sur son propre site, on va remonter dans Google. Et moi, je crois qu'il y a besoin vraiment d'une culture critique des algorithmes. C'est-à-dire que c'est vraiment une nécessité centrale. Alors moi, ce que je voudrais dire rapidement donc, dans ce projet, il est d'essayer de faire une anthropologie des algorithmes, c'est-à-dire de regarder quel est le principe qui permet de classer les informations sur le web. Alors, et parce que je crois que quand on fabrique un algorithme, alors ce qui est souvent le cas de toute une série de discours critiques, qui est de dire les algorithmes c'est des machines, elles sont idiotes, seuls les humains sont capables de classer. Alors, moi, je suis partisan de l'idée qu'on ne fait rien sans des machines. Nous sommes de toute façon équipés de machines partout, depuis le roi Gourand nous l'a appris, depuis les premiers outils préhistoriques, nous agissons à travers des artefacts techniques, et donc on doit les comprendre, on doit les domestiquer, on doit les critiquer, on doit savoir les utiliser et s'approprier, mais c'est pas la peine de se braquer contre eux de façon trop forte. Et surtout, c'est nous qui les fabriquons. Et quand on les fabrique, on met à l'intérieur des métriques des principes qu'on a derrière. Et alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'il y a 5 principes qui sont enfermés dans les algorithmes aujourd'hui. Et tout le débat, c'est de savoir comment faire la cuisine entre ces différents principes. Le premier principe, et là je reviens à l'histoire du web, c'est qu'on a d'abord classé, mais je pense que vous le savez mieux ici que moi, mais en 96-97, mais on classait encore le web à la main, avant les moteurs de recherche performants, donc 98, Google, et Yahoo doit sa notoriété et son importance, et qui est toujours grande, même si un peu plus éteinte aujourd'hui, à son annuaire. Et l'annuaire de Yahoo, c'est l'idée de classer à la main le haut du web, le meilleur du web, dans un annuaire qui ne déparerait pas dans un travail de documentation. Il y avait une petite culture un peu frics comme ça pour mettre un peu de choses, voilà, mais c'était quand même un annuaire très ordonné, très classé à la main, dans lequel on éditorialise, et donc on sur un principe de sélection des sites proposés ou des sites trouvés, on va les ranger dans l'annuaire de Yahoo. Et cette idée de classer le web à la main est évidemment rapidement passée, mais cette idée que localement on reclasse à la main n'a pas disparu un seul instant des principes et des plateformes du web. Tout le renouveau des sites dits de curation, je pense que ce mot a dû traverser vos oreilles, ce mot est très étrange quand même, de curation, donc qui vient de curateur de l'art contemporain, hein, mais en tout cas que on valorise des choix individuels et qu'on peut composer et des assemblages de ces choix individuels, modèle Scoop-It ou modèle Paltrow, etc., est une manière effectivement de montrer que l'idée que le jugement humain ou la composition de jugements humains ou des jugements experts multiples, etc., sont évidemment toujours au cœur du classement de l'information, même si la prétention à tout classer évidemment a disparu. La deuxième manière de classer le web... L'annuaire Yahoo, hein, quand Jerry Yang et Dave... Pour l'anecdote, il raconte toujours qu'il l'a fait parce qu'il n'avait pas... Il faut vraiment dans le contexte 96, hein, ou même avant 96, je crois. Le contexte, les ordinateurs étaient connectés entre eux, mais on ne savait pas où étaient les informations, hein, sur quel site, à quel endroit elles étaient déposées. Et donc, pour l'anecdote, eux disaient que c'était, ils voulaient connaître les résultats des matchs de basket, hein, américains. Donc, ils ont voulu les centraliser. Hein, et donc, leur idée, c'est qu'ils ont recruté une armée de petites mains, hein, qui classait le web dans un annuaire à la main. Hein, et donc il y avait une ontologie, enfin, vous voyez, ou un classement, une ontologie. Hein, je suis très prudent ici parce que je sais que vous êtes des experts sur ces.
Un peu comme une D-Way.
Une D-Way, voilà. Un classement à la D-Way. Avec des petites quand même catégories un peu bizarres pour être dans la culture. De l'internet, et ils recevaient des gens qui leur disaient mon site est formidable, puis ils allaient regarder, puis ils disaient bah oui c'est formidable, je le rentre catégorie comme ça, ou ce site n'est pas formidable, je ne le classe pas dans l'annuaire. Donc c'était vraiment un jugement fait par les documentalistes, on va dire ça, hein, par les documentalistes de Yahoo.
Juste pour compléter, en 95, si vous preniez un abonnement Wanadoo, et vous, avec votre modem, était fourni un petit ouvrage, un petit fascicule, qui était un annuaire du web, avec de la page 32 à la page 45, les sites de tourisme 45, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à l'époque, par exemple, juste pour préciser là-dessus, si vous cherchiez livre, c'était uniquement dans la catégorie, alors c'était commerce et vente. Donc tout ce qui est toute la partie culture de l'annuaire ignorait le livre. C'était uniquement dans commerce et vente et librairie qu'on pouvait le trouver, quoi. Avec des petits arrobas à l'époque pour essayer de faire un commentatésaurus, un voir aussi et qui renvoyait vers autre chose. C'était l'enfer.
Non, mais voilà. Ça a été très important. Un des problèmes, je le souligne, c'est qu'il y avait une corruption rapide de ces annuaires par le commerce. Hein. Et par les sites qui voulaient se faire voir et qui étaient furieux parce que Yahoo ne voulait pas, et Yahoo a plus tard monétisé son entrée dans l'annuaire. Donc on voit très bien que le dit jugement humain, moi je vais dire un truc provoquant ici, le fameux libraire qui sait choisir pour vous parce qu'il est formidable, parce que c'est l'esprit humain incarné et que c'est pas l'algorithme de filtrage collaboratif d'Amazon, le très sympathique libraire, il a parfois son distributeur, vendeur là du réseau de distribution qui lui a dit tu me places ça tout de suite, etc. Donc on a des logiques de corruption qui peuvent arriver assez facilement, qui étaient... Je ne dis pas ça contre les libraires, mais je dis ça, c'est ce qui est arrivé à Yahoo, hein, c'est ce qui l'a disqualifié assez vite. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième proposition de principe qui va dominer Internet au point de le domestiquer, de le discipliner complètement, qui est l'arrivée du PageRank en 98 et mise en place en 2000 avec Google. C'est, je l'ai dit à l'instant et je n'y reviendrai pas tout à l'heure, donc j'insiste un instant, c'est une rupture centrale dans le système de classement du web. On passe d'un web classé par le lexique et le langage vers un web qui est classé par la reconnaissance, hein, et le principe délibérément emprunté et par Brin et Page, les fondateurs de Google, et par John Kleinberg, qui a la même idée au même moment, hein, c'est la même origine, le même endroit qu'ils ont été chercher une idée pour entièrement déplacé le paradigme scientifique qui était mis en place à l'époque, qui était plutôt lié au langage, au lexique, au monde de la bibliothéconomie aussi, hein, qui est d'aller chercher chez Eugene Garfield, 1960, Science Citation Index, comment classer les revues scientifiques par le fait que d'autres revues scientifiques les citent. C'est cette idée-là qu'il faut rapatrier dans le web pour en faire une métrique. Kleinberg et Brin et Page vont même dire de façon très provocante dans leur article, on n'a même pas besoin de lire les articles, oublier tous ces moteurs lexicaux, etc. On a simplement besoin de savoir la structure des liens entre les pages. C'est la structure des liens entre les pages qui distribue ce jus de lien, comme le dit Google aujourd'hui, qui est le fait qu'on envoie de la reconnaissance à d'autres pages et que la mesure de cette reconnaissance est la meilleure approximation possible. Ils n'ont jamais prétendu que c'était un indicateur de qualité, mais que c'est une manière d'approximer la qualité qui est supérieure aux autres. Et pour ceux, mais vous êtes pour ceux qui ont connu cette époque, hein, vous vous souvenez, enfin, le passage de Lycos à Google, on voyait tout de suite le genre de différence. Et quand on regarde l'histoire de Google, alors moi je dis l'histoire du PageRank, hein, mais, ou du Google Score, tout le travail que fait Google, et je ne parle pas de AdWords, la partie commerciale, mais tout le travail que fait Google sur le PageRank, enfin sur le Google Score, les pages organiques et blanches, ne cesse de continuer cet esprit initial, hein, même s'il y a une sophistication statistique maintenant incroyable du système avec la personnalisation, etc. Ce que ne cesse de faire l'algorithme contre le marché du SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire les gens qui cherchent à produire des liens qui s'applaudissent eux-mêmes, hein, ou qui payent des gens pour qu'on les applaudisse en leur envoyant des liens, tout le travail fait dans les transformations de l'algorithme Panda, etc., etc., c'est un travail pour purifier les types de liens qui doivent entrer dans le calcul du Google Score comme étant des liens qui envoient de la reconnaissance et pas du calcul de la stratégie du lien acheté, des fermes de liens, des fermes de contenu et du lien dupliqué, etc., etc., etc. Et donc il y a toujours cette idée assez puriste, hein. C'est très fascinant de voir Google discuter avec les webmestres en leur disant ne vous occupez pas de moi. C'est-à-dire plus le webmestre fait un lien vers un autre site en pensant au PageRank, plus en fait il y a une corruption générale du système de classement. Hein. Le bon lien doit être naturel ou organique parce que s'il devient stratégique, il serait déformé. Google est très subtil, hein, très rusé et c'est extrêmement profitable. Il leur dit mais la visibilité, ça se mérite, le PageRank, ou ça s'achète, AdWords. Mais n'essayez pas d'acheter le mérite. Voilà. Et cette chose est consubstantielle au modèle de classement qui s'est mis en place et que moi j'appelle l'autorité, hein, au sens de l'autorité scientifique, de la reconnaissance par les pairs. Et puis il y a, et je vais très vite là pour finir vraiment, mais un troisième principe qui est apparu au même moment, hein, éditorialisation, autorité et audience sont apparus au même moment, à la fin des années 90, enfin dans le courant des années 90. Mais moi, ce qui me frappe, ayant beaucoup travaillé sur la radio, la télévision ou des médias traditionnels, c'est, et je crois que c'est une vertu du web, hein, dans son esprit, c'est que le web, beaucoup plus que les autres médias, a résisté aux métriques d'audience. Hein. Alors, les métriques d'audience sont absolument centrales pour les institutions, pour tous ceux qui gagnent de l'argent sur le web, et donc pour le marché publicitaire du web. Mais l'audience, donc le clic, hein, n'est pas une variable qui joue un rôle central dans le PageRank. Hein. Le PageRank est une autre manière de classer l'information que l'audience. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Quand on le regarde de façon mathématique, hein, c'est deux manières différentes de classer les informations, soit par ceux qui cliquent, hein, et c'est un modèle de télévision, TF1, hein, de médiamétrie, soit par ceux qui citent. Alors, il est vrai qu'au sommet, et c'est les transformations liées à la massification du web, au sommet aujourd'hui du web, il y a une superposition de l'audience et de l'autorité, mais c'est une superposition qui s'appuie en fait sur le fait que ceux qui sont très vus, qui ont beaucoup d'autorité, captent l'attention et du coup suscitent beaucoup de clics et reçoivent beaucoup d'audience. Mais les deux choses, analytiquement en tout cas, à mon sens, méritent d'être distinguées. Et puis je finis avec les deux autres principes qui sont aujourd'hui, je crois, au cœur de tous les débats, c'est que d'une certaine manière, l'écosystème formé par les trois premiers principes éditorialisation, autorité et audience dessinaient en, d'une certaine manière l'écosystème du web des pionniers, et qu'aujourd'hui il y a une transformation massive qui a lieu avec deux nouveaux principes d'organisation de l'information qui sont mis en place. Le premier, c'est l'affinité, et c'est les classements tels que le fait les métriques du web social, de Facebook, de Twitter, de Pinterest et de tous les réseaux sociaux, dans lequel l'information que je vais voir est l'information qui est la conséquence des traces d'activité des gens auxquels je me suis abonné parce que je partage avec eux des affinités, soit de la proximité sociale parce que c'est des amis, des vrais ou des moins vrais, ou de la nébuleuse de mes amis sur Facebook, soit parce que c'est des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi et auxquels je me suis abonné. Et du coup, il y a un débat assez central aujourd'hui, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, qui est de dire que du coup, on est enfermé dans la bulle de ses propres choix, puisque l'information que je vois aujourd'hui est l'information qui correspond à la structure de mes affinités, et on le sait, nous avons des affinités, alors en sociologie on a un gros mot pour ça, on dit homophile. Homophile, ça veut dire des gens qui me ressemblent. Donc si je suis de droite, ben, mes amis sont de droite, si j'étais l'âge, ben, mes amis ont le même âge, etc., etc., etc. Et donc on aurait un enfermement dans des bulles qui serait lié à l'usage des plateformes de réseaux sociaux. Il y a plein de raisons de critiquer les plateformes de réseaux sociaux, leur manipulation des données, le caractère propriétaire des données, l'usage qu'elles font des données. Mais je crois que cette critique-là sur les usages, mais on y reviendra dans le débat, est pas forcément fondée, en tout cas dans les études qu'on a aujourd'hui. Et puis le dernier principe d'organisation de l'information, c'est, je dis vitesse, en fait, il faudrait dire fraîcheur, hein. C'est que dans le PageRank, vous mettez très très longtemps à être premier, parce qu'il faut que vous ayez reçu des liens des autres, hein, et donc ça favorise des gens qui sont depuis longtemps sur le web mais qui renouvellent leur page. Y a un autre principe qui est mis en avant, Twitter en est un bon exemple, c'est la vitesse, hein. C'est l'idée que l'information qu'on va voir et qui va être mise en avant par le web, c'est l'information qui est récente, et donc la récence est un des critères de plus en plus mis en avant sur ces outils. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous précise qu'il est aussi autant passionnant de lire l'ouvrage que d'écouter l'auteur, et qu'il est présent dans la bibliothèque de l'ENSIB également. On a du temps pour des questions et des échanges, discussions, remarques. Je trouve toujours passionnant. Alors, c'est peut-être il y a peut-être un saut de génération de devoir de plus en plus, par rapport à la question que vous avez posée, de devoir faire une histoire du web, d'expliquer qu'il y a eu un web avant Facebook et avant Google, quoi. Alors c'est vrai que c'est assez évident, et en même temps on a l'impression que c'est une histoire tellement proche qu'il n'est pas nécessaire de la faire. Enfin voilà, année après année. De ma petite expérience d'enseignant, il est de plus en plus nécessaire d'expliquer qu'à un moment, le web n'était pas comme ça, quoi. Alors, il faudra peut-être qu'on intègre ça, une histoire du web par les usagers. Là-bas, Christelle.
Bonjour. Alors, je voudrais vous poser trois petites questions, s'il vous plaît. Alors d'abord, je voulais vous demander, j'ai pas très bien compris ce que c'était que l'éditorialisation. Ensuite, je voudrais vous demander comment on peut faire pour gagner en visibilité sur le web. Par exemple, je pense aux stratégies, par exemple, du Front National pour essayer d'envahir le web, pour montrer que leur idéologie est courante et circule. Ou alors, je pense par exemple à Amazon, où des auteurs sont dans une stratégie de recherche d'audience en commentant eux-mêmes leur propre... Enfin, tout ça, comment est-ce qu'on peut manipuler le web pour gagner en visibilité et finalement arriver à faire passer des opinions ? Est-ce que vous en pensez par rapport à la démocratie et l'Internet ? Et enfin, je voudrais revenir sur l'affaire Snowden et vous demander ce que vous pensez de ce potentiel, enfin, où la démocratie d'Internet peut être pervertie pour devenir... un espace de surveillance.
Avec ça, on peut tenir jusqu'à longtemps. Hein. Oui, éditorialisation. Peut-être je le dis mal. Moi, je cherche à voir quoi, voilà, cette idée des cinq principes. Hein, mais là, je vous ai présenté en fait ce qui est l'introduction de ce que je ne vous ai pas présenté. C'est l'idée de formaliser de façon générale quelque chose qui serait des principes impostables d'organisation de l'information, soit parce qu'elle a l'autorité, parce qu'elle correspond à mes affinités, etc. Et l'éditorialisation, ça correspond en fait à l'idée du jugement humain, voilà, de l'individu qui fait acte de responsabilité pour considérer que ce qui doit être vu des autres, c'est ça, ça et ça et ça. C'est ce que fait tout journaliste quand il compose son chemin de fer, et c'est ce que fait un OMS quand il met en avant telle ou telle information sur son site web. Et c'est voilà, c'était l'idée de juger à la main. Bon, alors gagner de la visibilité, j'y ai peu insisté. Depuis le début du web, chercher à être visible est une obsession des internautes, hein, et par tous les moyens possibles et imaginables. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire de façon provocante en présentant le PageRank, mais pas comme je vous l'ai fait, mais en présentant tous les fondements statistiques et mis en place, que le problème que rencontre Google côté PageRank, hein, pas côté AdWords, hein, c'est que les internautes ne sont pas à la hauteur des vertus morales du PageRank. Hein. C'est-à-dire que l'idéal du PageRank, c'est que les gens s'envoie des liens naturellement parce que il le mérite. Si je cite un tel, c'est parce que dans ce que je suis en train d'écrire, il mérite d'être cité, il doit être cité. Hein. Chez Wikipédia, on a tous cette composante qui est forte, mais Wikipédia n'a pas résisté à la problème de la tricherie, hein, et donc ils sont passés, excusez-moi pour le point technique, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent bien, Wikipédia est entièrement en no-follow, c'est-à-dire qu'il n'envoie plus de page rank, hein, parce que les entreprises cherchaient, ou les gens, ou les individus cherchaient absolument à avoir un lien sur Wikipédia qui allait leur envoyer plein de bonnes réputations sur les moteurs de recherche. Donc la question de gagner de la visibilité est omniprésente, et évidemment toutes les stratégies ont été mises en place, donc ce serait long de faire la liste de ces questions. Moi, je crois que c'est au cœur des nouvelles formes contemporaines de l'individualisme. C'est-à-dire que sur Facebook, on cherche à être un peu visible, c'est pas obsessionnel, mais sur les plateformes de réseaux sociaux, on veut l'être. Hein. Toutes les plateformes d'échange de contenu, MySpace, Flickr, etc., c'est Pinterest, c'est très central d'avoir beaucoup d'amis. Hein. Et pour avoir beaucoup d'amis, on va dire aux autres qu'on les aime bien, du coup ils nous aiment bien, hein, c'est le principe, c'est toujours le même. Tricher avec le moteur de recherche, bah, c'est l'objet d'un marché entier, hein. Peut-être il y a un marché entier on est enregistré, je suis ennuyé, mais il y a quand même le marché du Search Engine Optimization, c'est un marché entier qui est consacré et qui gagne beaucoup d'argent, à aider les gens à être plus visibles. Certaines techniques sont complètement Google compatible, elles correspondent à une bonne structure du site, une bonne organisation des encres, des liens entrants, des domaines et des sous-domaines, etc. Mais beaucoup d'autres techniques, c'est de se faire applaudir par des gens, par d'autres personnes, et donc de tricher avec l'esprit du PageRank. Alors, vous aviez des questions plus stratégiques et plus politiques. Sur le Front National, ce qui est frappant dans les questions que soulèvent ces débats, c'est que moi je pense, alors je dis ça avec réserve parce que je sais que tout est plus compliqué que ça, que peut-être que je suis un petit peu optimiste et naïf, mais en grande partie du fait de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la loi de puissance très très forte, les opinions très minoritaires, alors ce qui n'est pas le cas hélas du Front National, remontent rarement dans la hiérarchie de visibilité du web, sauf quand des gens très visibles s'en emparent. Et les gens très visibles qui s'en emparent, c'est souvent les médias très traditionnels. Hein. Il y a eu, même pendant un temps, hein, moi je pense, c'était très délibéré, hein, des médias traditionnels, professionnels, voulant faire du people, mais ne l'assumant pas dans la déontologie de leur rédaction, avaient inventé la rubrique « Vue sur Internet ». Et donc la rubrique « Vue sur Internet », c'est un truc qu'on demandait aux journalistes de taper dans les mots-clés des moteurs de recherche les trucs les plus idiots qui soient. Et puis on trouvait le truc idiot, et alors il était dans les bas-fonds du web, vu par personne. Et puis, remonté très très haut, il devient l'objet d'une larisée collective de la viralité, de l'ironie, etc. Canal+, pendant un temps, était spécialiste de ça. Ils allaient chercher la chanteuse qui chantait faux devant son, devant sa webcam. Ils la mettaient sur le plateau du Grand Journal et après, elle était sûre, voilà, d'être l'objet. Voilà. Donc, il y a des jeux de visibilité dans lesquels, et je pense que c'est très important, dans lesquels si tous les internautes sont, et notamment ceux qui ont une forte visibilité sur le web, sont responsables du fait que parfois ils vont chercher des informations qui ont une visibilité beaucoup plus faible. Les opinions extrêmes, et notamment la fachosphère, hein, elle est, il y a de très bonnes cartes de l'influence qui sont faites là-dessus, elle a une importance très forte sur le web, hein, il faut surtout pas minorer son importance, mais elle se cite entre elles, hein. Elle est assez peu citée dans les sites centraux, donc on la trouve facilement si vous tapez les mots-clés qui sont dessus, mais sinon vous ne la voyez pas forcément apparaître dans vos propres liens naturels.
Je pense aux forums, oui, qui sont utilisés comme un outil de propagande. En fait, j'ai entendu dire qu'ils payaient des gens qui sont du Front National pour envoyer plein de commentaires sur tous les forums et montrer l'impression d'une force, d'une puissance.
Vous avez raison. Il y a des cabales, hein, des clics organisés, hein, qui font ça. C'est devenu une pratique assez typique de l'Internet. Le Front National le fait, mais l'UMP et le Parti Socialiste, pendant la campagne électorale, ils regroupent tous leurs militants dans une salle et puis ils leur demandent de tweeter que leur candidat est formidable, 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 formidable. Hein. Ils appellent ça une war room pour essayer aussi d'occuper le média. Je pense qu'on entre dans une sphère informationnelle dans laquelle il y a un bruit incessant. Et il y a des bruits qui sont liés à des coalitions organisées de plus en plus massives. C'est un espace dans lequel il va falloir vivre aujourd'hui. Je vais vite pour qu'on garde un peu de temps de débat. Mais parce que c'est une question qui est si vaste. Snowden, moi, j'aurais pas beaucoup plus de choses à dire que vous, moi, si on allait discuter. Moi, ça m'a... les seules choses qui seraient centrales, c'est que je pense que c'est... on se doutait qu'il y avait des choses, mais quand même, on se doutait pas que ça avait cette ampleur-là. Alors, il faut enquêter plus. Hein. Moi, je pense qu'on est qu'au début de cette affaire Snowden. Et surtout, travaillant et parlant beaucoup d'Internet, moi, je suis très surpris du changement, du coup, d'atmosphère complexe que c'est en train de générer. Hein. Et je pense qu'il y a vraiment... Snowden sera une marque très importante dans l'histoire d'Internet à venir. Hein. C'est la fin de l'âge de l'optimisme béat. Toute la charge critique sur la question des données et de la vie privée était entièrement focalisée sur les plateformes, et donc les entreprises privées, le surveillant était les entreprises privées, l'État était complètement oublié de tous ces débats, bon, et tout d'un coup, on retrouve une centralité absolue de l'État, c'est-à-dire que Facebook, Google nous surveillent pour nous vendre des pubs. Hein, leur objectif, c'est principalement ça. Tout d'un coup, on découvre que derrière Facebook, Google, etc., et avec leur complicité aussi, il faut voir comment, mais le dossier me paraît quand même assez solide sur cette question. Les États capturent nos données et nos informations. Donc, on fait basculer vers un autre surveillant. Une partie des débats, et c'est assez intriguant, je veux dire.
Moi, j'avais une petite question pour continuer là-dessus. C'est, il me semble que... il y a plusieurs aspects qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que la question des gatekeepers, pour revenir sur ce type d'acteurs-là, il me semble qu'on a des acteurs traditionnels, des médias, etc., qui, pour le coup, ne perçoivent pas l'impact éditorial, justement, dans le sens que vous utilisez, de leur travail de mise en ligne ou de sélection, etc. C'est-à-dire, pour eux, on a l'impression que ça reste une mise en ligne, alors que c'est un vrai travail éditorial. Ils choisissent ce qu'ils donnent à voir. Et c'est encore plus fort, il me semble, sur si le Monde choisit de faire remonter en premier sur sa page un article, sa visibilité et sa place dans les pages va être démultipliée. Et Donc voilà, il y a l'aspect de ne pas comprendre l'enjeu éditorial d'une activité web pour les acteurs traditionnels du web. Et il y a un autre aspect, c'est le fait que les gatekeepers, on va dire des algorithmes, si on considère Google comme un gatekeeper, se positionnent, je ne sais pas si c'est légitime ou si c'est moi qui le vois comme ça, comme apolitique. C'est-à-dire ils ne sont pas, ils ne soutiennent personne, ils sont complètement apolitiques et il me semble que ça correspond bien à l'idéologie des débuts, mais je ne suis pas convaincu que ça soit quelque chose qui soit naturel ou qui. Ben, imaginons que demain Google décide de soutenir un candidat à la présidentielle parmi un autre, par rapport à un autre aux États-Unis. On imagine la force de frappe que pourrait avoir Google en échange de, je sais pas, quel aspect fiscal. Donc, d'un point de vue démocratique, la légitimité de ces acteurs-là qui deviennent apolitiques et à État, pour moi, me pose vraiment question par rapport à Snowden, ce que vous disiez. C'est pas le fait que Snowden ait révélé qu'il y ait de l'espionnage qui, à mon avis, je suis d'accord, on s'en doute un petit peu. C'est le fait qu'une entreprise ait décidé de collaborer ou pas, ou fortement, avec un État pour des raisons idéologiques, au moins. Quelle légitimité, comment des acteurs de ce type Google construisent une légitimité, une forme de réputation de neutralité, et comment est-ce qu'ils peuvent espérer maintenir cette réputation dans le temps?
Oui, ma réponse peut être très compliquée là. Je vais essayer de dire simplement. Google, ils sont démocrates, ils ont soutenu les démocrates, hein, même si aujourd'hui, il apparaît que dans leur bénévolat, de toute façon, ils ont tellement d'argent à distribuer, maintenant, ils arrosent tout le monde. Mais enfin, aux élections, ils étaient, ça ne faisait aucun doute qu'ils étaient Obama. Donc, en fait, on connaît leur idée politique. Mais ils se sont retranchés derrière autre chose, hein, qui est, c'est plus que la neutralité, c'est la science. Hein, et je crois que c'est assez central. Et là, moi, je vais dire un truc assez paradoxal, c'est que je pense qu'il faut défendre l'argument de la neutralité par la science, c'est-à-dire que parce qu'elle est en train, cet argument qui a été central chez Google, hein, qui était de dire c'est pas moi qui juge, c'est l'algorithme, hein, a été absolument central. Ils ne prétendent pas que l'algorithme est neutre, hein, du tout. Mais ils prétendent que l'algorithme, il fait le calcul sur les données qui sont ici, et il n'y touche. Et le grand terme était, on ne touche pas à la main les classements. Hein, à tel point que parfois il y avait des erreurs de classement manifestes, hein, des trucs assez impossibles qui sont liés à ce qu'on appelle du Google bombing, qui permettait de faire monter des gens. La réponse de Google est toujours, on ne touche pas à la main à l'algorithme, vous n'avez qu'à faire des liens pour qu'il descende et qu'il retombe, mais nous on ne touche pas à la main. Or Google touche de plus en plus à la main, et il touche de plus en plus à la main sous l'effet des régulations nationales, hein. C'est parce que les industries de la propriété intellectuelle leur ont dit qu'il ne fallait pas mettre en avant les sites piratés, qu'ils touchent à la main les sites piratés. C'est parce qu'ils repèrent des tricheurs qui font des fermes de liens, qu'ils baissent les fermes de liens. C'est parce qu'en Europe et en France et en Allemagne principalement, il y a des législations sur les propos antisémites, et etc., qu'ils touchent à la main, etc. Et donc on ne cesse de leur dire cette sorte d'idéologie scientiste de l'instrument est neutre, et du coup on fait une confiance totale à l'instrument, pour protéger de notre propre subjectivité, ne va plus marcher très longtemps. Et dès qu'elle éclate, on entre dans le risque que vous soulevez, parce que ce scientisme idiot qui nous vient du idiot et en même temps très fort, hein, moi je pense qu'il faut le défendre. Il est très bien expliqué par les historiens de l'objectivité. Hein, l'objectivité a une histoire, elle a changé. Notre définition de l'objectivité a une histoire. Il y a deux magnifiques historiens de l'histoire de l'objectivité qui en ont écrit le parcours historique, qui s'appelle Lauren Daston et Peter Galison. Et donc le modèle d'objectivité auquel se réfère Google, c'est ce qu'on appelle l'objectivité instrumentale, qui se fixe au 18e, 19e siècle, et qui est l'idée que l'instrument, entre l'observateur et la nature, il y a un instrument neutre, et la neutralité de l'instrument est le moyen de se préserver de la subjectivité des jugements. Dans le fameux article écrit par Brin et Page pour expliquer le PageRank en 99, hein, il cite dedans un auteur qui n'est pas Chomsky, mais qui est un équivalent de Chomsky, pour dire « vaut mieux que ce soit une machine » plutôt que la subjectivité des journalistes. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient vraiment que tous les journalistes sont subjectifs, donc ils sont liés à des intérêts idéologiques, etc. Il vaut mieux confier le classement à une machine. Mais ça renvoie Et je crois que c'est le modèle qui est typiquement en résonance avec les transformations. Alors c'est là que mon argument est compliqué, j'espère que je vais arriver à le dire, mais des transformations de notre rapport à la politique aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que nous ne croyons plus aux représentants politiques, nous ne croyons plus aux institutions, nous ne croyons plus aux syndicats. Même les associations sont l'objet de critiques, on ne croit plus aux chercheurs. Et si on cherche à dire ce qui se joue dans cette transformation, c'est que moi je crois qu'aujourd'hui les individus nous disent je ne crois plus dans des représentants qui définiraient substantiellement le monde, qui définiraient le contenu du programme, parce qu'ils sont trop liés à des intérêts, il y a trop de subjectivité. Finalement la substance, la volonté générale, l'intérêt général, les décisions, elles appartiennent à l'individu. C'est lui qui décide. La frontière de la vie privée et de la vie publique, c'est pareil. Si j'ai décidé de m'exposer, je m'expose. C'est pas parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne donne pas ses opinions politiques sur le web. Si j'ai envie de les donner, je les donne. C'est l'individu qui définit lui-même, substantiellement, un certain nombre de choses. Et du coup, ce qui est collectif doit être procédural. Hein. Ce qui n'est pas substantiel est procédural. Et du coup, l'algorithme, il arrive avec une justification procédurale. Hein. Il dit... Je suis un simple instrument, et Google l'a pendant un temps très bien dit. Hein, Eric Schmidt a passé son temps dans les conférences à dire c'est un algorithme, il est bête, il est idiot. Hein. Et je crois que tant qu'on n'a pas compris et qu'on n'entend pas cette idée que les machines produisent des classements idiots dans lesquels on ne fait de confiance à leur fonctionnement que parce qu'elle est procédurale, c'est une manière de redonner aux individus leur capacité de ne pas suivre l'algorithme. Après tout, qu'est-ce qui nous oblige à cliquer sur le premier lien de Google pour pas cliquer le troisième? Pourquoi penser que Google m'aliène, hein, si j'ai la possibilité d'aller jusqu'à la page champ des résultats? Donc je crois que c'est une transformation assez profonde, et c'est pour ça que moi je suis très attentif à l'idée d'une culture critique des algorithmes. C'est qu'il faut défaire ce sentiment un peu aliénant que nous avons vis-à-vis des machines, dans lequel elles nous dominent, elles nous écrasent. Voilà. On peut être en dessous de la prescription de l'algorithme, ou bien on peut se placer au-dessus de la prescription de l'algorithme et considérer que l'algorithme dit ça, ça et ça, ça devrait être plus pertinent, mais on n'est pas sûr qu'il ait raison, on ne sait pas très bien comment il marche, il est peut-être influencé par des intérêts économiques. Moi, je peux cliquer autre part que là ou là. Mais là, je me pose au-dessus de la prescription de l'algorithme. Et donc, je crois que plus on connaîtra, plus on a un rapport éducatif aux algorithmes, plus on les comprendra simplement comme des outils qui aident vaguement à se repérer. Mais si on sait comment ils marchent, si on sait les décoder, on saura aussi ne pas les regarder comme des outils qui nous dominent et qui nous écrasent. Voilà. Je fais confiance.
En fait, vous dites qu'il faut maîtriser les algorithmes, mais est-ce que les algorithmes de Google sont dans le domaine public ? Est-ce qu'on connaît exactement comment
non.
ils fonctionnent ?
Oui, oui, non, de ce que j'ai compris de ce qu'il fallait en comprendre, les gens de Google ne savent pas comment ils fonctionnent aujourd'hui. Hein, parce que ils sont. Donc, ce que je vous ai dit, évidemment, complètement caricatural par rapport à la réalité. Et d'ailleurs, j'ai bien fait attention à parler du PageRank et pas du Google Score. Le Google Score intègre 200 signaux, dont un des signaux est le PageRank. Hein. Donc, c'est une machine incroyablement plus complexe. Parce que il y a Bon, d'abord, ils sont gardés secrets. Ils sont gardés secrets. Alors, je vais le dire aussi là de façon provocante. Moi, au début, évidemment, de cette enquête sur le PageRank, j'étais hyper militant. C'est scandaleux que ce soit secret. Il faut que ce soit rendu public, enfin, etc. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi c'est pas rendu public. C'est-à-dire que si c'était et là, Google a raison. Là, vous n'imaginez pas la force des gens qui veulent tricher sur le web et être visible, hein, et notamment la force économique de toutes ces entreprises webmestres. Donc, si c'est rendu public, les résultats du web qui se dégradent seraient encore plus corrompus. Ça, on donne aux tricheurs, des pouvoirs d'action très très forts dans cet espace. Mais par ailleurs, aujourd'hui, les méthodes sont dites d'apprentissage. Donc, en fait, il y a des signaux multiples, 200 signaux. dont la pondération dans le calcul va dépendre de votre requête, de votre compte et des réponses qui ont été faites par tous les autres utilisateurs qui ont fait la même requête que vous et dont on sait sur quel lien ils ont cliqué, etc. Et donc, tout bouge. En fait, c'est une sorte de mer assez houleuse dans laquelle la pondération des signaux est entièrement dépendante de l'ensemble des signaux qui sont envoyés par les autres internautes et peuvent être très différents. Donc le PageRank peut jouer très très fortement sur une requête et pas du tout sur une autre requête. La fraîcheur peut jouer très fort sur une requête et pas du tout sur une autre requête. Ça bouge constamment, ce qui fait que même Vintigal, hein, qui est le grand architecte du PageRank, je ne sais pas comment fonctionne sa machine. C'est-à-dire c'est un bateau qui s'auto-organise. Mais je crois que ça c'est pas très grave. Enfin, non, ce qui est très important, c'est que c'est un changement de paradigme statistique qui a des vraies conséquences, hein, et notamment l'apparition d'un paradigme de la prédictibilité, hein, alors d'une prédictibilité, je pourrais avoir un débat sur la qualité de la prédictibilité, mais en tout cas il y a cette idée d'une précision de plus en plus forte des systèmes qui sont faits, mais nous pour les utiliser, c'est-à-dire pour être au-dessus de l'algorithme et pas en dessous, hein, comme je le disais de façon métaphorique tout à l'heure, on n'a pas besoin de connaître le eigenvector qui fait fonctionner le PageRank, ni le système d'apprentissage et de corrélation. On a besoin de comprendre le principe, hein, voilà. De savoir que ce sont les liens entrants qui font la visibilité dans l'espace de PageRank de Google et pas les clics. De savoir comment fonctionnent les filtrages collaboratifs d'Amazon et aussi d'en faire la critique, hein. Je dis pas ça, je pense qu'il y a une tâche éducative et puis il y a une tâche critique, c'est de savoir si Amazon dans le filtrage collaboratif d'être sûr qu'il n'ajoute pas des ouvrages qui ne correspondent pas au principe que comprennent un peu mieux les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui ont acheté le même ouvrage ont aussi acheté, mais que peut-être que, parce qu'ils ont un stock à placer, ils mettent aussi des ouvrages qui n'ont pas du tout été achetés par les gens qui ont acheté le même ouvrage que moi, mais ils veulent le placer. Et dans ces cas-là, il y a une posture critique qui est beaucoup plus importante à avoir, évidemment.
On a le temps encore pour une question ou pas ? Est-ce qu'on peut sans abuser avant ? Il y a deux écosystèmes dans lesquels on retrouve ce système de... Vous l'avez évoqué en parlant de Garfield. C'est-à-dire que le système de publication scientifique est construit exactement... Enfin, sur le même principe et il a inspiré. Il est critiqué aujourd'hui parce que effectivement si vous faites un article de référence sur un sujet qui n'apporte rien de nouveau mais qui fait une revue de la littérature, il sera extrêmement cité parce que c'est facile de dire l'état de l'art il est là et donc j'ai pas besoin de le refaire sans que l'apport scientifique de la publication soit, et donc ce mécanisme est critiqué et en même temps on se rend compte que son aboutissement un peu au travers du PageRank de Google apporte quand même se construit une légitimité. Est-ce que ça veut dire que la publication scientifique, le système de citation est finalement le bon et que c'est la meilleure approximation comme vous évoquiez, ou est-ce que les évolutions que Google injecte petit à petit dans son algorithme sont une source d'inspiration pour l'évaluation scientifique derrière? C'est pour savoir comment je dois écrire mes prochaines publis, si elles remontent.
Voilà, faire attention. Mais là, on retrouve toujours le même débat, c'est que je pense que plus on entre dans ces dispositifs, plus à la fois on les comprend et en même temps on sait les mettre à distance. Donc moi je reste, je sais que ce débat est polémique et qu'il y a des gens qui sont sur une position tout à fait adverse et je comprends tout à fait qu'il est très légitime, mais je reste sur le fond convaincu que la citation scientifique est une bonne approximation de la qualité des chercheurs. Bon, elle est truquée de partout, les chercheurs ont plein de ruses, ils sont comme les webmestres avec le PageRank de Google, ils s'auto-citent eux-mêmes, ils font les revues, etc., ils essayent de se placer au centre des réseaux, etc., mais l'air de rien, un chercheur qui est jamais cité, un chercheur qui est cité partout, ça approxime qu'il y a quelque chose à regarder. Alors peut-être que l'opacité est un génie absolu et complètement incompris des autres, ce qu'il va dire dans ses commissions de la FRS, mais dans ces cas-là, peut-être qu'il faudrait arriver à mettre suffisamment de relativisation pour effectivement ouvrir la porte à cet imprévu possible qui est que au cœur de la centralité d'une communauté scientifique qui s'autocite entre elles, il y a une voix dissidente qui apporte quelque chose. Et je pense que les sciences humaines et sociales, notamment dans lesquelles ces périphéries ont une importance très grande, doivent être très attentives à ces questions-là. Ça n'empêche pas de considérer qu'il y a quelque chose au cœur de l'activité scientifique. C'était le... qui est que entre pairs on se cite et que le savoir s'appuie sur le savoir des autres et que ceux qui sont souvent cités comme des points d'appui ont sans doute une voilà ça dit quelque chose mais encore une fois pour pas les prendre automatiquement comme c'est fait incroyablement idiotement dans les dispositifs d'évaluation qui passent de la mesure à la sanction, l'évaluation, etc., sans passer par une appréciation de ce que fait la mesure. Donc moi, je crois que c'est en connaissant le fonctionnement de la mesure qu'on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Et puis, il y a une culture très forte qui se met en place aujourd'hui, qui est différente de celle du PageRank, qui est celle du benchmark. C'est-à-dire, moi, je crois que les mesures sont des mesures de benchmark, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se sert des mesures pour prendre des décisions de politique, administrative, etc., pour transformer des pratiques, pour améliorer le futur classement du palmarès. Et donc, les palmarès sont des systèmes à rebond, dans lesquels la mesure ne cherche pas à objectiver une situation, mais elle cherche à donner un état d'une situation à transformer et à améliorer. Et c'est tout un autre paradigme statistique qui est derrière, et là qui est, à mon avis, beaucoup plus critiquable et dangereux. C'est-à-dire que le point, c'est que... bon, ça sera là aussi compliqué, mais dans Google, il y a cette idée centrale qui est une invisibilité du... Google voudrait être invisible aux internautes. C'est-à-dire que il ne faut pas agir en fonction du PageRank. Dans le monde de Facebook, de Twitter, etc., le compteur, il est visible sur la page des internautes. Donc on agit pour le compteur, c'est-à-dire que le compteur, il est dans l'action elle-même. Et donc là, on est vraiment dans des systèmes de benchmark, c'est-à-dire que dans un lien, dans un retweet, dans une citation, on voit tout de suite l'effet qu'elle provoque sur le compteur. Et on entre dans des logiques qui peuvent être extrêmement calculatrices, c'est-à-dire qu'on introduit de la rationalité et du calcul à l'égard des métriques un peu partout dans le monde social. C'est l'exemple typique de la police. Hein. Quand on est à l'extérieur de la réalité qu'on observe, on peut prétendre, optique naturaliste ou scientiste, décrire la catégorie. Mais quand on dit aux policiers qu'ils doivent augmenter les arrestations pour racolage passif, on mesure la catégorie racolage passif et les actions des policiers en même temps. Et donc les actions et la catégorie évoluent en même temps. Et donc en fait, on fait exister le racolage passif par le fait qu'on augmente les procédures dans ce domaine. Et donc là, on n'a plus la position d'extériorité que peut prendre l'instrument. C'est pour ça que moi je défendais l'objectivité instrumentale tout à l'heure. C'est qu'elle maintient la prétention à être extérieure aux agents pour essayer de donner un cadre à leur action qui n'appartienne pas à leur comportement.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je vous remercie encore infiniment pour cette conférence et à très bientôt dans cet amphithéâtre pour les autres.